Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est 13h, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, violents orages en Île-de-France, arbres arrachés, rues inondées, transports perturbés. L'alerte se déplace vers l'est avec 7 départements en vigilance orange. L'Algérie en deuil après des incendies meurtriers, 12 morts et 54 blessés dans le nord-est du pays. Des dizaines de foyers étaient encore actifs jeudi, attisés par la canicule et des vents violents. Au Népal, le bilan de la crue s'alourdit à 538 morts avec encore des centaines de disparus. L'alerte reste maximale face au risque de rupture d'une retenue d'eau au Tibet. Bonjour, une nuit agitée sur le front de la météo après de violents orages qui ont balayé l'Île-de-France hier soir. Arbres arrachés, parfois tombés sur des voitures, rues inondées, câbles électriques à terre. Le Val-de-Marne a été particulièrement touché. Une personne a été blessée au bras par la chute d'une branche. Les transports ont également été fortement perturbés avec des arbres et des débris sur les voies et des interruptions sur plusieurs lignes de RER. Ce vendredi matin, les orages se décalaient vers l'est. 7 départements du Rhône au Bas-Rhin restent en vigilance orange avec des risques de grêle, de fortes pluies et des rafales pouvant dépasser localement les 100 km/h. Puis à l'autre bout du pays, la Corse reste en vigilance orange canicule avec des températures pouvant atteindre 40 degrés. Le Népal et le Tibet restent en état d'alerte après la crue dévastatrice qui a fait près de 538 morts mercredi, tandis que des centaines de personnes, dont de nombreux touristes étrangers, sont toujours portées disparues. Une nouvelle menace pèse désormais sur la région, la possible rupture d'une retenue d'eau formée après l'effondrement d'un glacier côté tibétain. Les opérations de secours sont perturbées, voire suspendues dans certaines zones. Et l'armée népalaise tente notamment d'évacuer une centaine d'ouvriers coincés dans un tunnel. Face à l'ampleur de la catastrophe, la Chine a proposé son aide au Népal pour les secours. Il s'agit du désastre le plus meurtrier dans le pays depuis le séisme de 2015. Je vous le disais en titre, l'Algérie en deuil après les violents incendies qui ravagent le nord-est du pays. Au moins 12 personnes ont été tuées et 54 blessées, dont 6 grièvement, principalement à Gigel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété 3 jours de deuil national alors que des dizaines de foyers étaient encore actifs jeudi, attisés par la canicule et des vents violents. Face à l'ampleur du désastre, une question se pose aussi, celle des moyens disponibles pour lutter contre des incendies toujours plus difficiles à maîtriser. Mais pour Soufiane Djilali, personnalité politique et ancien président de Gil Jadid, le problème va au-delà des moyens. La sécheresse et le manque de pluie rendent désormais les forêts particulièrement vulnérables au feu. On l'écoute.
Il y a officiellement pour le moment une douzaine de morts, mais très probablement le bilan va s'élever à beaucoup plus. Malheureusement, je crois que le problème est assez général. En tout cas, les Algériens sont choqués par le ravage des flammes et ils voient l'ampleur du désastre. Il n'y a pas de doute que le pays est dans une émotion extrêmement puissante.
Concernant les moyens mis en place face à ces incendies particulièrement meurtriers, est-ce que vous pouvez nous faire part justement de ces moyens? Sont-ils suffisants aujourd'hui?
Oui, par rapport à l'ampleur des dégâts, on peut toujours dire que les moyens sont insuffisants, mais le problème, je crois, est ailleurs. L'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, méditerranéens en particulier, fait face à ce problème d'incendie à cause de la sécheresse en particulier, qui fait que dans les forêts, il y a beaucoup de broussailles, et beaucoup de bois très sec. Il y a un manque de pluie évident. Et donc quand vous avez des incendies aussi nombreux, aussi multiples, il est très difficile d'y faire face. Maintenant, la population elle-même s'est mobilisée, elle est aux côtés des services de la protection civile, donc ils essayent de coopérer, de sauver ce qui peut être sauvé, mais ce n'est pas facile. Je pense que même en France, en Espagne, et ailleurs aussi, le pourtour méditerranéen est en proie à des incendies de plus en plus ravageurs.
Et justement, est-ce que le pays aurait besoin d'une aide internationale, une aide inter-nord-africaine ou également européenne?
Généralement, quand il y a ce genre d'incendie, il est évident que les pays ont besoin de solidarité au moins, ils ont besoin d'entraide. L'Algérie elle-même a souvent aidé d'autres pays qui étaient dans ces cas-là.
Et ce deuil de 3 jours, comment est-ce que cela se traduit? Il y a par exemple l'annulation de compétitions sportives?
Généralement, c'est surtout les concerts de musique, c'est les fêtes. Vous savez, nous sommes en fin de l'été. Beaucoup d'Algériens sont ici, il y a beaucoup de fêtes locales, etc. Mais par signe de solidarité avec ceux qui subissent ces drames, le pays a décidé d'un deuil de 3 jours. Oui. C'est une marque de solidarité avec ceux qui souffrent actuellement.
Soufiane Djilali, politique et ancien président de Gilles Jadid, au micro de François-Xavier de Calonne. La tension monte à Ceuta, un mois après l'arrivée massive de plus de 70 000 migrants en provenance du Maroc. Des manifestations anti-migrants ont dégénéré jeudi en affrontements avec la police, tandis que plusieurs milliers de migrants restent dans l'enclave dans des conditions précaires. Le gouvernement espagnol appelle au calme et cherche à accélérer les procédures de retour. L'actualité au Proche-Orient, à Gaza, 3 personnes ont été tuées jeudi dans plusieurs frappes israéliennes selon la défense civile, notamment dans la ville de Gaza et près de Khan Younes. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des membres du Hamas accusés de poursuivre leurs attaques et de tenter de reconstituer leur capacité malgré le cessez-le-feu. Israël prévient par ailleurs que tout nouveau lancement de ballons ou de cerfs-volants depuis l'enclave entraînera désormais une riposte vigoureuse. En Syrie, 2 personnes, dont un garçon de 13 ans, ont été tuées dans l'explosion d'une grenade devant le palais de justice de Hasakeh dans le nord-est du pays. Une région récemment passée du contrôle kurde à celui des forces gouvernementales dans le cadre de l'accord d'intégration avec Damas. Et c'est justement sur le terrain politique que cet accord connaît une nouvelle avancée majeure. Ahmad al-Shara vient de nommer Mazloum Abdi, l'ancien chef des forces démocratiques syriennes, conseiller à la présidence. Quelques jours seulement après la dissolution des FDS, autre geste en direction de la communauté kurde, l'enseignement de sa langue est désormais autorisé dans les écoles des régions où elle est fortement présente. Nouveau bras de fer entre Téhéran et Washington. L'Iran affirme que les pressions américaines ne fonctionnent pas après l'annonce de nouvelles sanctions. Téhéran se dit toutefois prête à relancer la diplomatie à condition que les États-Unis changent d'approche. En Norvège, le décès ce vendredi du roi Harald V à l'âge de 89 ans, après 35 ans de règne, doyen des souverains européens et figure très populaire dans son pays. Il s'est éteint à l'hôpital d'Oslo où il avait été admis le 17 août. Son fils, le prince héritier Haakon, 53 ans, lui succède automatiquement sur le trône. Dans le sud de l'Ukraine, les autorités appellent les habitants de Kherson à évacuer face à l'intensification des frappes russes. Les infrastructures énergétiques sont particulièrement visées. Une nouvelle attaque de drone a encore tué un homme ce matin. En Serbie, Ratko Mladic aura droit à des obsèques nationales avec les honneurs militaires, annonce le ministre de la Justice du pays. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, condamné à la prison à vie pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, est mort jeudi à La Haye après plusieurs mois de maladie. En Colombie, un soldat franco-colombien de la Légion étrangère française est retenu en otage depuis le 6 août. En permission dans son pays d'origine, il aurait été enlevé par des dissidents des FARC dans une région du sud-ouest contrôlée par la guérilla. Retour en France où la présidentielle aiguise les ambitions et à droite comme au centre, les prétendants se bousculent. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Linard, Xavier Bertrand, cinq noms déjà dans la course alors que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dominent les sondages aux deux extrêmes. Mais la campagne est encore loin d'avoir livré toutes ses surprises. Une autre personnalité peut-elle surgir, bousculer le jeu et s'imposer face aux candidats déjà déclarés? Et surtout, les partis traditionnels sont-ils encore en mesure de résister à la défiance d'une partie de l'électorat? L'analyse d'Arnaud Benedetti, politologue et directeur de la Nouvelle Revue Politique.
Tout est possible en politique, que des ambitions qui pour l'instant restent tapies dans le clair-obscur de ce début de campagne, de pré-campagne présidentielle, c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Le vrai sujet, c'est que la politique, vous savez, c'est de la physique de force aussi. Et le vrai sujet, c'est que les forces aujourd'hui sociologiques, qui sont les forces sociologiques fortes sur le plan électoral, notamment les classes populaires et les classes moyennes, ne se retrouvent pas forcément dans des offres politiques qui sont des offres politiques qui seraient plus ou moins héritières des partis de gouvernement. Le véritable enjeu de cette élection présidentielle, je crois que c'est celui de savoir si cette fois-ci les partis de gouvernement qui gouvernent vont être capables de pouvoir survivre à la vague de dégagisme qui ne cesse de monter dans ce pays. C'est ça le véritable enjeu de la présidentielle, quelle que soit la personnalité ensuite qui puisse éventuellement surgir. Alors si cette personnalité est une personnalité qui est associée à des partis de gouvernement, ça sera à mon sens quand même beaucoup plus difficile pour elle, même si en politique tout est possible. Si c'est une personnalité que l'on n'attend pas ou que l'on n'a pas identifiée et qui tout d'un coup pourrait, dans un trou de souris, surgir et incarner une offre d'alternative, c'est peut-être autre chose. Mais pour l'instant, on ne voit pas ce profil de manière très explicite surgir dans un horizon qui lui permette de prendre suffisamment d'ailleurs d'élan pour ensuite être candidat dans une campagne qui quand même nécessite d'installer son image et d'installer sa crédibilité.
Arnaud Benedetti, politologue et directeur de la Nouvelle Revue Politique au micro de François-Xavier de Calonne. Comment remettre à flot les comptes de la Sécurité sociale pour Jean-Pierre Farandouf? La priorité est claire, il faut restaurer l'équilibre d'un système de protection sociale qu'il juge aujourd'hui à bout de souffle. Invité ce matin de France Info, le ministre du Travail et des Solidarités estime que l'effort devra passer par des économies, mais aussi par de nouvelles recettes avec une contribution accrue des plus aisés parmi les pistes évoquées.
Moi, ma position, je ne prends pas les choses dans le même sens. Mon premier objectif à moi, c'est de restaurer l'équilibre des comptes de la Sécurité sociale. Parce qu'elle s'écroule. Mmh. On va faire encore plus de 20 milliards de déficit cette année, en 2026. On va certainement refaire encore un déficit l'an prochain, et ça renvoie au projet de budget sur le financement de la Sécurité sociale. Ce n'est pas normal. La Sécurité sociale, elle devrait être à l'équilibre. C'est un système assurantiel. Vous voyez, donc c'est grave ce qui se passe. Elle a 80 ans, la Sécurité sociale, elle est à bout de souffle. Donc le premier effort à faire, que ce soit des économies d'un côté ou éventuellement des recettes complémentaires, c'est pour restaurer l'équilibre. Parce que l'équilibre est la seule manière de garantir la durabilité du système de protection. Quand on aura fait ça, il faut d'abord le faire et avoir du courage pour le faire. On verra bien évidemment qu'on a tous envie de réduire le brut et le net. Mais là, il faudra être courageux parce que les économies qu'on fera faire aux salariés, il faudra assumer une fiscalité. Il y aura bien quelqu'un qui paiera pour compenser la baisse des cotisations.
Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. C'est la fin de cette édition. Merci à Anis, à la réalisation. Excellente suite de programme sur Radio Orient.